Catherine Boulet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez lu la presse nationale et internationale et en une aujourd'hui des relations qui se glacent et d'autres qui se réchauffent.
Au rang des idylles, voici La Havane et Washington. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, a déclaré hier Barack Obama. Réouverture des ambassades et bientôt la levée de l'embargo. Ce n'est plus qu'une question de temps. Mais voilà, qui va faire de Cuba l'île de toutes les tentations. L'ouverture va mettre à l'épreuve sa belle conscience écolo, titre aujourd'hui le Herald Tribune, car les entreprises américaines piaffent et attendent le feu vert. Les chaînes d'hôtels Hyatt, le Marriott, une compagnie de croisière ont fait savoir leur enthousiasme. Le tsunami arrive, prédit un défenseur cubain de l'environnement. Et c'est vrai, il suffit de voir les dégâts commis sur les îles voisines des Caraïbes. Rivières polluées, forêts détruites, plages grignotées par le béton, coraux dévastés pour comprendre le risque qui guette l'île jusqu'ici préservée. Aujourd'hui, Cuba, grâce à Castro, c'est 104 zones protégées. Oui, mais bon, quand on veut construire un golf ou un hôtel, on ne peut pas non plus attendre 107 ans, répond un ministre du gouvernement. Le chéquier des Américains l'emportera-t-il sur la protection de l'environnement? Je ne pense pas que les Cubains se vendront aux grandes fortunes américaines, réplique un expert. On devrait croiser encore quelques années des Lada et des Chevrolet dans les rues de la Havane.
En Europe, en revanche, un couple qui craque.
Merkel, Hollande, rien ne va plus. Et tout ça à cause de qui? À cause des Grecs. Tsipras sème la zizanie entre la France et l'Allemagne, titre le Figaro. Merkel et Hollande affichent leurs différends, reprennent plus sobrement les échos. Paris voulait faire vite pour sortir de la crise grecque. Pas question de se précipiter, dit Berlin. On attend le référendum de dimanche et on verra après. L'enjeu, pense la chancelière, n'est pas que les choses se calment le plus vite possible. Hollande, Merkel, ils avaient pourtant su surmonter leurs divergences sur l'Ukraine ou le climat, et même jusqu'ici sur la crise grecque, écrivent Anne Bauer et Thibault Madelin dans Les Échos. Mais à 4 jours de ce référendum, qui peut précipiter la Grèce dans un dangereux chaos, le couple désuni n'est pas à la hauteur. Et cette panne franco-allemande est plus grave qu'il n'y paraît, explique le Figaro. Elle n'est pas qu'un simple désaccord tactique sur les vertus de la fermeté ou du compromis, écrit Philippe Gély. Les différents sont politiques. Hollande ne veut pas se couper de sa gauche déjà remonte. La chancelière, elle, est poussée à la fermeté par ses alliés sociaux-démocrates. Ici, la Grèce sert en quelque sorte de révélateur. Et en attendant, que fait François Hollande? Au lieu de passer prendre Madame Merkel à Berlin et d'aller s'expliquer à Athènes avec Monsieur Tsipras, voilà qu'il s'envole pour l'Afrique.
La nouvelle France-Afrique de Hollande, c'est justement la une de l'opinion ce matin.
Comment Hollande est-il perçu par les pays africains? Plutôt bien, croit savoir Pascal Hérault. Image moins clivante que celle de son prédécesseur. Le chef de l'État a un dialogue direct et franc, tient ses engagements et n'est jamais avare de bonnes blagues. Une qualité très appréciée de ses hôtes africains. Ceci étant dit, tempère Jean-Pierre Batte du CNRS, interviewé par le journal, allez à l'université de Brazzaville et vous verrez, entre 500 et 100 des meilleurs élèves héritent d'une bourse pour apprendre le
chinois
et pas le français.
On parlait des couples qui s'entendent et de ceux qui s'entendent moins. En voici deux qui font équipe en toute discrétion.
La Grande-Bretagne a aussi de grandes oreilles chez ses voisins, comme la NSA. Et qui partage-t-elle et avec qui partage-t-elle ces informations? Eh bien, avec les Américains. Perfide Albion, c'est au siège du GCHQ, Government Communications Headquarters, à Cheltenham, que tout se passe. C'est à lire aujourd'hui dans Libération, nouvelle révélation de Wikileaks. Le GCHQ a donc piraté l'opérateur belge Belgacom, fabriqué un virus pour espionner les institutions européennes, etc., etc. D'ailleurs, Edward Snowden l'avait dit, dès 2013, la Grande-Bretagne est pire que les États-Unis. Pas sûr toutefois que les voisins européens soient terriblement choqués par la nouvelle. L'Allemagne, l'Espagne, la Suède et même la France, sous Nicolas Sarkozy, avaient signé une annexe secrète avec David Cameron pour obtenir quelques bribes d'écoute.
Des écoutes qui font également la une en Allemagne.
Une du Bild, une du Süddeutsche Zeitung qui a réuni les dernières preuves manquantes du téléphone piraté d'Angela Merkel. Les journaux allemands ont donc pu mettre la main sur les conversations de la chancelière avec son entourage. Nouvelle preuve de sa sagacité, elle avait vu venir la crise grecque. Dès 2011, Angela Merkel nourrissait des doutes sur le sauvetage d'Athènes.
Alors Catherine, est-ce que ces informations de Wikileaks font la une aux États-Unis?
Non, mais il y a question de renseignements ce matin dans le Wall Street Journal notamment. La CIA voudrait diversifier son recrutement, trop de blancs, pas assez d'hispaniques, de noirs et d'arabes, déplore son patron John Brennan. C'est un rapport qui le dénonce. 11% à peine de la hiérarchie de la CIA est composée de minorités. Rien n'a vraiment changé en fait depuis le 11 septembre 2001 quand Ce genre de critique avait déjà été émise. Mais franchement, à lire l'article, on comprend que Brennan va avoir du pain sur la planche pour faire bouger l'institution. Le rapport qu'il a entre les mains est truffé de commentaires anonymes du style « La célébration de l'ethnicité est du temps perdu et nous détourne de notre mission première ». Enfin, disons que c'est dit en langage beaucoup plus cru « Events celebrating ethnicity are a big time suck ».
Se regarder, s'espionner, ce n'est pas seulement Catherine au niveau des États, à lire dans Libération.
Are you stalking to me? Le stalking avec un S, c'est un dérivé du terme traquer, to stalk. C'est le voyeurisme quotidien sur les réseaux sociaux où tout est interconnecté. Exemple, Tinder, le site de rencontres sexuelles, vous propose d'utiliser vos données Facebook pour créer un profil. LinkedIn se synchronise ensuite à partir des contacts mail. Les résultats de nos temps de course enregistrés par notre application de running arrivent sur notre page Facebook, etc. Alors, une fois amis sur Facebook, pas difficile d'aller se renseigner sur la vie numérique du collègue, du voisin ou du fiancé potentiel. Au cours d'un apéro professionnel ou d'une conférence, il est donc désormais courant de tomber nez à nez avec des gens sur qui l'on en sait déjà beaucoup. S'ensuit d'ailleurs une nouvelle forme de tact, observe un sociologue. Le mauvais goût n'est pas de regarder ce que font les gens sur Internet, c'est de faire savoir qu'on l'a fait.
Catherine Boulet, merci. On vous retrouvera demain pour une nouvelle revue de presse nationale et internationale.